Quay.
Bonjour.
Alexis Wawalaloat.
Robert Blondin ici. Avec des invités particulièrement intéressants aujourd'hui, Alex Jimmy Papati et avec
Michel
nous
Audep,
tout de suite, Michel Audep. Bonjour Michel.
Quoi Michel?
Quoi à vous deux?
Grosse semaine, hein Michel?
C'est comme si toute notre lutte ou notre amour à ce qu'on fait depuis notre premier souffle est arrivé dans cette semaine-ci là, en même temps, des effets ou des résultats.
Joyce Echaquan, la fin de l'enquête publique mercredi dernier, les 215 enfants retrouvés au pensionnat de Kamloops. En tout cas, moi, j'étais là avec... on s'est pas parlé mercredi dernier, mais j'étais là à la marche, puis ça a fait beaucoup de bien pour moi. Est-ce que ça t'a fait du bien, cette marche-là aussi?
Ça m'a fait du bien parce qu'en effet, depuis le 13 mai, physiquement, à tous les jours, là, avec la famille... Mm-hmm. Mais... aussi depuis le 28 septembre, le lendemain, plutôt le 29, là, d'être en contact là, avec Diane, la maman de Joyce, pour après ça les accompagner jusqu'à la marche, là, jusqu'à mercredi passé. Sur la route de retour, là, j'ai pas mal prié pour me rappeler que demain, le lendemain, j'allais me réveiller sans tous les petits-enfants qui courent là, partout, ou les craintes ou les rires là, de la belle famille Atikamekw. Ça a été un processus de lâcher prise pas évident.
Oui, parce que c'est ça, hein, on vit tout ça. T'as à parler, t'as à t'exprimer devant tout le monde, mais en même temps, on a à vivre ces deuils-là puis à supporter, comme tu l'as dit, la famille. Toi, en plus, tu supportes la famille dans toutes ces démarches-là. C'est émotivement quand même très prenant.
Oui, puis là, on n'est pas... Tu sais, j'avais pas mes mocassins d'une commissaire ou de quelqu'un qui va recevoir et proposer un projet de société. J'étais comme une maman, une sœur, puis dans un certain silence à accueillir tout ça. Là, le moment où il a fallu que je prenne la parole devant la coroner, j'étais comme... moi-même perdue dans l'émotion, mais en même temps, hey, let's go, cette femme-là va marquer l'histoire si elle capte bien tous les témoignages de ce qui a été présenté devant elle, et je nous le souhaitais. Donc, c'était une expérience que je connais pas beaucoup, là, dans mon petit chemin de vie, là.
Est-ce que, Michel, le fait des conclusions éventuelles de la coroner, est-ce que même le déroulement de l'enquête a pu aider un peu à guérir tant pour la famille que pour tous vous autres aussi, là?
Tellement, tellement. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle vient présenter là, le rapport d'autopsie, puis on peut se le dire, ça a été public. Là, toutes les deux, ça a fait comme un petit clash culturel ou de personnalité, parce qu'on a une personnalité forte, là. Et essayer de négocier pour assurer que la langue Atikamekw soit constamment présente pour la traduction, l'interprétation, etc., etc. Et c'était assez rigide, la perception puis mon feeling. Une fois rendu sur place, j'ai comme vu que rapidement, dans les heures qui ont suivi, j'ai vu une femme qui est rigide, pas rigide parce qu'elle est dure, mais elle est à son affaire puis elle veut des réponses, mais une humaine là, devant nous. Puis on s'est donné comme objectif de jamais se parler pendant l'enquête. Et une fois l'enquête terminée, on s'est dit, ben, moi je lui ai dit, vous avez rassuré la famille, vous avez humanisé un processus tellement frais, tellement difficile, qu'en peu de temps, ce qui est difficile à faire, là, une famille puis une communauté au complet ont participé et leur cœur et esprit étaient ouverts au lieu d'être sur la défensive ou sur des craintes, là.
Oui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais, on l'a critiqué pour cette façon de faire-là quand même.
En effet, puis on l'a critiqué, puis je trouvais, là, je me disais, non, il y avait une journaliste là, qui voulait aller là, puis j'ai dit, on va pas là, OK, ça vaut même pas la peine, je vous répondrai pas. Ce qui vaut la peine, par contre, c'est une femme veut connaître la vérité entre telle heure et telle heure. que tu sois vert, carré ou autochtone, ou peu importe d'où tu viens, elle veut connaître la vérité. Si son approche est raide, ben jouez pas là-dessus. Jouez sur le fait qu'on a quelqu'un qui veut connaître la vérité.
Est-ce que tu penses que cette enquête-là va avoir des effets qui vont perdurer auprès du gouvernement du Québec, qui a tant de misère à reconnaître le racisme systémique, qui a eu tant de misère à traiter de cette question-là?
Et c'est la question que tout le monde pose, puis même elle s'est engagée à pas avoir peur d'utiliser les mots qu'elle va vouloir, elle, utiliser, et que si, de l'autre côté, le gouvernement actuel va faire fi, comme dans le principe de Joyce, on accepte certains éléments, mais pas au complet, à cause de ce mot-là, ben là, tranquillement, un gouvernement va s'isoler parce que les autres professionnels commencent à s'élever et à dire « moi, je l'applique le principe » ou « je l'endosse » ou les termes. Donc, reste à voir là au mois de juillet ou au mois d'août, quand ça va sortir, quelle sera la réponse gouvernementale.
Parce que je souhaite de tout mon cœur que la réponse gouvernementale soit à la hauteur de la dignité que Carole Dubé, que toute la famille de Joyce et Jacqueline a pu avoir là-dedans, parce que ça aurait tellement été facile de juste sortir de la colère, tandis que Carole nous parlait tout le temps d'amour.
Exactement. Tu le dis tellement bien, là. Tu l'exprimes bien et tu le dis bien. Voici un bel exemple que l'appel au calme ou à la dignité puis à l'amour, pourtant, il y a toutes les raisons, là, d'être enragé. Donc, à quelque part, il a fait son bout de chemin et nous, on le suit à côté et en arrière. C'est sûr que j'aimerais que le gouvernement Legault ou le gouvernement dans son ensemble dise « OK, c'est un fait, les preuves sont accablantes. À partir de maintenant, vous l'avez entendu, let's go, on avance. » Mais ça, c'est une surprise, une déception ou un cadeau qu'on va recevoir là, une fois que le rapport va être déposé.
Comment évaluez-vous, Michel, la prestation de la presse, des médias là-dedans?
Si vous m'aviez posé la question quand j'ai été nommée à l'âge de 28 ans à Chambre autochtone du Québec et que j'aurais eu la même expérience de cette époque-là, mais au moment où vous me posez la question, c'était tough avant, là. Il y avait beaucoup de préjugés ou de méconnaissances ou de l'ignorance, sinon une normalisation ou banalisation de faits divers, là, que ça donnait des faits divers alors que c'était le même message qu'on dit aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'ai senti, puis même la coroner va l'avoir dit, que ce soit les avocats qui représentaient les organisations ou dans la salle pour les médias, elle a senti que les gens travaillaient ensemble autour de cette tragédie. Beaucoup de sensibilité, plus de questions qui rapportent des faits. Du sensationnalisme, on va l'avoir vu, mais je sentais que qu'on a connu aujourd'hui, on aurait dû le connaître il y a 5 ans, il y a 10 ans et il y a 20 ans.
Si au moins l'intérêt de la presse, des médias pouvait se poursuivre dans les suites de ces événements-là, ça sera très important qu'ils le fassent. J'espère qu'ils le feront.
J'espère, puis c'est là où l'appel du cœur que je vais avoir fait hier pendant la manifestation, n'attendons pas une autre crise. Si on a le pouvoir que vous avez, vous, avec ce bâton de parole que vous utilisez tellement bien, ben de temps en temps, c'est pas obligé d'être une journée nationale ou de commémoration, de ressortir. Mais ben vous avez cette beauté-là et cette capacité. Ça devrait être pour tous les autres médias de faire en sorte que, ben aujourd'hui, on parle de quelque chose, mais il n'y a pas un déclencheur qui nous oblige ou qui nous amène à.
Ouais, pour qu'on arrête de juste évoluer dans la lutte contre le racisme avec des crises, avec des morts.
Exactement, exactement.
Parce que c'est ça qui a fallu. On l'a vu, on va revenir au cas des 215 enfants retrouvés dans une fosse commune à Kamloops. La commission Vérité et Réconciliation avait été quand même assez claire, avait des propositions claires. Toi, tu as été commissaire d'une commission qui parlait de génocide.
Oui.
Puis aujourd'hui, ça fait encore partie du débat, le terme génocide, quand toutes les preuves sont là.
Exactement. Mais comme quand nos parents ont parlé de ça, la douceur de ta mère qui va dire promotion à la non-violence au lieu de parler de violence, mm-hmm. c'est qu'on comprenait sûrement à cette époque-là que juste parler de violence, c'est un tabou. Donc, on va essayer d'y aller d'une autre façon, mais qui dit la même affaire. Alors que moi, je vais signer, tu sais, plus tard, au mentorat de ta maman et bien d'autres femmes, un rapport qui va dire, on parle plus de génocide culturel ici, là. L'analyse faite par une juriste avocate québécoise qui a travaillé avec Louise Arbeau, tu sais, Fanny Lafontaine, sur des questions de génocide dans d'autres pays, ça, elle a une connaissance. Mettons, là, elle a développé une science qui découvre, elle aussi, par nos preuves, ben là, on parle plus juste de culture, mais de plusieurs formes de politiques génocidaires qui ont été mises à une certaine époque et qu'aujourd'hui, on en vit les produits ou les fruits de cette culture-là.
C'est pour ça que ce qui se passe, c'est oui. ce qui s'est passé à Canoo, ce qu'on a découvert là, ça confirmait ce qui était dit depuis longtemps de toute façon. Ça dépasse de beaucoup la nouvelle. Ça touche aussi l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le colonialisme a pris le chemin prétexte habituel qui est pris partout dans le monde de l'évangélisation pour faire ces horreurs. Et ça, on n'en parle pas beaucoup encore.
Non, on n'en parle pas beaucoup. Puis, ce qu'on ne veut pas non plus parler, c'est comme si c'était arrivé juste ailleurs, mais pas ici. Alors qu'ici, ben aussi, les communautés religieuses ont eu le contrôle puis le pouvoir sur notre système de santé puis de l'éducation et tout ça. Puis après ça, ben l'État va arriver puis prendre sa place. Mais la culture n'a pas changé. Moi, les écoles résidentielles ferment, mais je suis dans les écoles de jour. C'est les mêmes curés, c'est les mêmes prêtres. Puis après ça, je tombe dans une école du gouvernement fédéral dans ma communauté à Mayotte-Étame. C'est la même culture. On va me dire, ben là, t'as tes règles, prends des pilules. Voici ta contraception. Au lieu de m'expliquer la vie, de m'expliquer une santé sexuelle, puis va te faire vacciner, on va regarder tes poumons. Ah, toi, t'as la tuberculose, va-t'en à l'autre bord du fleuve. Puis ma mère, elle n'est même pas consultée. Pourquoi? On est traité comme des enfants, tout le monde. Alors, même si on enlève la communauté religieuse, les écoles vont continuer à poursuivre ou perpétuer. Puis après ça, on perd des bébés. Ils tombent malades, vont dans le système de santé, ne reviennent jamais après une hospitalisation. C'est pas un pensionnat, là, ça. C'est un système de santé qui a continué une culture qui était malheureusement normale et banalisée et ancrée ou calculée. Puis ça, Joyce Echaquan, elle a des petits cousins puis des cousines qui sont jamais revenus, là, dans sa propre famille.
Il y a eu une réaction très forte, très médiatisée, et heureusement d'ailleurs, du cas d'Echaquan comme celui de Kamloops. Il y a eu beaucoup de réactions. Bon, la marche, les Autochtones et tout. J'ai pas vu tant de réactions des gens ordinaires blancs, sauf ceux qui les représentent de façon institutionnelle. Le gouvernement qui, comme d'habitude, réagit en disant « on va mettre des millions là-dedans pour faire enquête, pour chercher, etc. » Mais c'est pas vraiment les gens de tout le monde. J'ai l'impression que les blancs, là, dont je fais partie, ils se disent « Ah, ben on a trouvé un bouc émissaire. C'est un blanc qui a fait ça. Johnny McDonald a fait ça à l'époque. Et maintenant qu'on a un bouc émissaire blanc, on se retire. » Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine, je sais pas trop, c'est un silence des blancs qui est un espèce de reliquat de racisme encore. On n'en parle pas chez les blancs entre blancs.
Peut-être le malaise, l'ignorance. Parler de quelque chose qu'on nous a jamais enseigné correctement, mais qu'on va nous donner comme image. Bon, on va peut-être parler juste de cette image sombre-là, de l'Indien fainéant. Là, c'est un terme que j'aime pas vous dire, là. Où on a empêché d'éduquer dès la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur les vraies histoires de nos nations. Cette diversité et cette différence-là, qu'elle soit géopolitique, sociale et culturelle, on met tout le monde dans le même paquet, c'est une gang de sauvages. Plus tard, on les appelle les Amérindiens, plus tard les Indiens, etc., etc., ou l'inverse. Là. C'est normal. Je suis pas d'accord que ça se fasse pas, mais malheureusement, c'est normal qu'ils en parlent pas. Là, on a des gens que j'ai jamais vus, par contre, si je peux me permettre, là, il y a des gens que j'ai jamais vus dans les manifestations ou dans les tribunes qui vivent le malaise et la peur de parler de nous et avec nous. Mais au moins, ils sentent qu'ils veulent faire des choses. Ou qu'ils vont signer des lettres. Hein, c'est qui eux autres? Ah, oh, wow! Hein? Ça, là, t'es pas là, ça, avant. Puis ça, pour moi, c'est pas gros, mais c'est en même temps très gros dans mon cœur.
Il faut que ça aille plus loin que ce qui est arrivé à la partie des Canadiens de Montréal avec les Jets de Winnipeg, où l'hymne national était chanté par un autochtone avec deux autochtones à ses côtés. Ben, y a des gens pour qui tout est réglé parce qu'on a fait ça, là.
Ben, oui, ça oui, justement. Pourquoi moi, je tripe beaucoup de savoir que certains vont faire de la politique québécoise ou de la politique fédérale pour justement rentrer dans une structure rigide puis dire, OK, on va mettre des politiques, on va créer des programmes. Puis moi, comme commissaire, de dire, ben là, il faut des lois, il faut attacher ça à des lois pour une reddition de comptes, une transparence, parce que les gens, s'ils ne savent pas qu'il faut rendre des comptes, ils ne se forceront pas, là, ou ce ne sera pas normal. Alors,
est-ce que c'est un peu ton rôle, Michel, à l'Université Laval, d'arriver dans une grosse institution qui a de la difficulté, des fois, à changer de cap?
Ben c'est gros, c'est plus gros que Sept-Îles, puis le Maliotenam, ça, je le dis tout le temps. En effet, c'est gros, puis justement, dans nos discussions, lorsqu'on a décidé de ramer ensemble, c'est, on veut faire un virage. Comment on le fait, et pourquoi, et avec qui, puis peut-être tu pourrais nous aider. Ben j'ai dit, certain, je vais aller travailler avec vous, et je tombe en amour. Parce que les gens reconnaissent, veulent connaître, puis là, maintenant, ils passent beaucoup, même sans moi, puis des fois avec moi, à une vitesse beaucoup plus rapide que j'aurais aimé voir il y a longtemps.
Donc, il y a une certaine humilité par rapport à ça qu'on ne retrouve pas dans toutes les institutions.
Énorme. Puis c'est ça qui fait la différence quand on reconnaît.
Michel Audette, merci beaucoup. Mais ce n'est qu'un début.
Qu'est-ce que tu
Oh, Kenya, tu n'es que maintenant. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
And tears are swept away.
C'était The Storm de l'artiste Isque, qui est une artiste cri et métisse du territoire du traité numéro 1 dans la région de Winnipeg.
Alexis, des nouvelles cette semaine. C'est la même nouvelle. Ce sont les deux mêmes nouvelles. C'est Kranloops, beaucoup qu'on retrouve de façon déclinée, de façon différente.
Ouais.
On en retrouve le gouvernement. On voit les réactions du gouvernement. Établir des 25 millions pour la recherche, etc. J'espère que tout ça va donner des lieux. Toi, tu as eu une semaine difficile parce que tu l'as vécu comme autochtone, mais aussi comme leader de la société. Tu étais à la marche à Trois-Rivières.
Oui.
Ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé. Comme je disais avec Michel un peu plus tôt au début de l'entrevue, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être là, puis ça a fait beaucoup de bien à peu près à toutes les Autochtones que j'ai vues. C'est un événement non seulement de solidarité, mais de guérison communautaire.
Je voudrais que tu m'expliques une chose, l'identification, ça t'a beaucoup touché, tous les Autochtones ont été touchés, Michel nous en parlait il y a un instant. L'identification que chacun individuellement fait pour la communauté en général, quelle que soit la nation, c'est important?
Ben oui, c'est important, puis on retrouve des éléments de solidarité ou des éléments dans les expériences vécues. L'expérience vécue face au colonialisme d'un autochtone du Québec qui a été dans le pensionnat de Saint-Marc va ressembler à beaucoup de points à l'expérience d'un autre autochtone qui va avoir été dans un pensionnat en Alberta ou en Colombie-Britannique. La dépossession du territoire, le régime fédéral... colonial, bon, ben, c'est des réalités qui nous touchent puis qui nous amènent, j'imagine, à être solidaires puis à avoir cette identification-là à cette grande communauté-là des Premières Nations sur l'île de la Grande Tortue.
Parce que ça vient chercher chez chacun, finalement, du personnel. C'était vécu personnellement.
Ouais, ben, c'est qu'on est tous souvent capables de ramener ça à des expériences qui nous ont touchés. Le racisme dans les soins de santé ou tout court, c'est des choses qui nous arrivent encore souvent beaucoup. Donc, ça nous touche si personnellement souvent parce que ça vient réanimer des vieilles blessures, ça vient réanimer
des
vieux souvenirs.
Mais c'est des blessures qui ont laissé des traces. C'est-à-dire que c'est pas juste, bon, j'ai été malade une fois, j'ai été frappé une fois. C'est que ça, sur l'ensemble de la vie de quelqu'un, ça a eu un impact négatif, là.
Mm-hmm. Oui, ben négatif ou en tout cas formateur au mieux, là. Mais oui, c'est sûr que ces expériences-là on pense qu'on est capable de les mettre dans une petite boîte puis tasser ça, mais finalement, c'est là, puis ça nous habite, ça nous hante même, je dirais.
Qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Ghislain Picard, qu'on va recevoir bientôt à notre émission, qui propose de consacrer le mois de juin, le mois national de l'histoire autochtone, et tout un projet là-dessus, c'est intéressant?
Oui, il paraît que ça fait 9 ans que ça existe, ça, le mois de l'histoire
hasard, on savait pas,
autochtone.
Ouais.
Donc, j'ai été un peu mis au courant de ça cette semaine, que ça faisait 9 ans que ça existait, dans une entrevue que je donnais à la radio en Ontario. T'sais. Mais oui, ça serait bien de donner, consacrer ce mois-là aux enfants, comme Ghislain le disait, parce que on l'a vu, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu retourner chez eux. Puis beaucoup de bébés, même dans notre système de santé, qui n'ont pas pu retourner chez eux, comme disait Michel. Donc, de se remémorier ça, de consacrer du temps à ces enfants-là disparus et aux enfants qui sont là, ben je pense que ça leur pourrait leur donner au moins une forme de dignité.
Est-ce que la complicité qui s'entend très bien entre toi, par exemple, et Michel Audette, et je l'ai constaté avec d'autres leaders de la communauté, dans ton cas, est-ce que c'est comme ça en général dans la communauté des Premières Nations? Parce qu'il doit y avoir aussi des luttes de pouvoir, j'imagine, à l'intérieur.
Oui, c'est sûr qu'il y a des luttes de pouvoir, mais moi, comme on a tellement de préjugés déjà envers nous, puis je pense que d'autres Premières Nations vont avoir le même réflexe que moi, qu'on va se garder nos luttes de pouvoir entre nous autres, puis quand c'est le temps de faire face à des enjeux qui sont plus grands que nous, comme c'est le cas en ce moment, Joyce Echaquan, la dignité humaine, Ben, je pense qu'à ce moment-là, on va réussir quand même à trouver certains éléments de complicité ou de compréhension mutuelle.
Est-ce que ces luttes de pouvoir-là, c'est surtout sur quelque chose qu'on ressent ou des projets de société qui sont
Oh, ben,
vraiment
ça peut être des
différents?
luttes politiques, des luttes économiques, ça peut être des
D'ambition
luttes
personnelle aussi
d'ambition
qui doit
personnelle
jouer.
aussi.
Ouais.
Donc, comme dans n'importe quelle société, il y a ça. Donc, mais je pense que c'est peut-être des fois même handicapant pour certaines personnes de ne pas vouloir justement exposer ces luttes-là, mais bon, c'est un réflexe qu'on peut avoir.
De toute façon, c'est des luttes qui existent aussi chez les Blancs, hein. Faut pas s'en faire avec ça. Par rapport aux Blancs, justement, on veut tant faire des ponts, établir des ponts entre les Premières Nations et les Blancs. Est-ce que ces événements-là, Joyce, Kamloops, peuvent aider?
Ben, dans mesure où les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé, parce que avec la Commission Vérité et Réconciliation, on le dit, c'est pas une surprise, mais ça n'a pas choqué les gens, je pense, autant que de savoir qu'il y avait 215 corps, puis de retrouver dans le pensionnat de Kamloops. Donc là, on a une preuve matérielle. Je pense que le choc de l'entendre, de le savoir, c'est une chose, de le comprendre, de le ressentir, ça en est une autre. Puis là, les gens ressentent ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui comprennent la douleur que les membres des Premières Nations ont vécue à pouvoir revoir leurs petits, à pas voir toutes les futures qui n'ont pas pu se développer, tous les cousins, cousines qu'on n'a pas pu avoir à cause de ça. Donc, oui, je crois que des événements comme ça, malheureusement, frappent l'imaginaire, puis on dirait qu'on a besoin d'être
Le
frappé dans
pont
l'imaginaire pour.
entre les Premières Nations et les Blancs est possible dans la mesure où on met pas tout sur le dos de la culpabilisation des Blancs, là.
Je comprends, non, mais là, on parle beaucoup de réconciliation, de pont. Je pense qu'il faut parler de décolonisation. Quand on va être arrivé à une certaine décolonisation, on pourra dire parler de pardon peut-être ou de réconciliation, mais c'est quelque chose qu'on va plus explorer tout à l'heure avec notre invité Jimmy Papatti.
Vous écoutez Coué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwat.
On est de retour avec notre chroniqueur Jimmy Papatti. Quoi, Jimmy?
Oui.
Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles, toi qui es un survivant du pensionnat de Saint-Marc de Figuerie, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que tous ces sentiments-là, toutes ces découvertes-là te ramènent comme sentiment, te soulèvent en toi?
C'est ça, le premier sentiment qu'on a, c'est la colère. Parce que c'est quand même des enfants. 215, c'est pas rien, là. C'est
Non.
215 enfants qui sont tués. Puis c'est ce qui. Tu sais, au Québec, là, quand un enfant se fait tuer, tout le Québec se mobilise quand c'est pour eux, un enfant, si c'est un non-autochtone. Mais quand c'est un autochtone, là, on n'en parle pas. Puis 215, ben, comme c'est très gros, puis c'est sûr que ça amène de la colère, la frustration. En même temps, ça nous amène aussi à passer le test de la résilience.
Ouais. C'est quoi ce test-là de la résilience?
C'est de transformer cette colère-là qu'on vit en quelque chose de positif, puis là, on se met en mode enseignement.
OK. Toi, tu as dû en voir beaucoup de la colère avant même ces événements-là, en tant que survivante de Saint-Marc. Tu as dû avoir comme toute cette colère-là en toi.
Ben oui, j'en ai eu avant, puis même après, parce que, tu sais, le Saint-Marc, quand ça fermait en 73, nous, les enfants de Kitsaké, qu'on a été placés un peu partout dans des foyers blancs.
Des externats
Puis on
qu'on
a fait
appelait, hein?
des externats. Puis on s'est retrouvés dans des. On allait à l'école des Blancs. On était intégrés avec les Blancs, là, tu sais, là, à l'école, dans la cour d'école, à l'intérieur même d'école, on avait droit à des mots comme caouiche, sauvage, peau rouge. Il n'y a rien qu'on n'a pas passé. Puis, en grandissant, nous, ça nous amenait de la colère quand on était jeunes parce qu'on se sentait toujours abaissé. Puis, il y a eu des batailles dans les bancs d'école, dans les écoles. Mais c'est sûr qu'après ça, on s'est fait souvent déplacer, nous autres. Moi, j'ai connu Val-d'Or, j'ai connu Sainte-Thérèse, j'ai connu Amos. Puis la résidence Pavillon Notre-Dame-de-la-Route, qui, elle, était un pensionnat aussi, mais elle, le gouvernement du Canada n'a jamais voulu le reconnaître comme un pensionnat.
On parle
il y avait
de
120 Anishinaabe qui était là.
On parle de l'externat de Louis-Cour, là.
C'est ça. On parle de Louis-Cour à peu près à une demi-heure de Val-d'Or. Elle a fermé en 91, puis les parents ont pris la décision de placer leurs enfants à l'extérieur. Dans ce temps-là, comme on fermait ça, à cause de toute la violence, les abus que les jeunes vivaient, on les a placés en groupe de familles dans des endroits à Val-d'Or. On les a sélectionnés, les familles d'accueil qui, pour nous, ont toujours été là. C'était des bonnes familles.
Jimmy, à vous entendre, 215 cadavres là, trouvés à Canoub, c'est une chose. Mais quand on aura tout trouvé, il semble que ça va être beaucoup plus que ça. Là.
Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a encore des... Il y en a encore, ça. C'est juste que moi, je dis souvent que la crypte de l'Église n'a pas été déterrée encore.
Oui, parce que l'Église catholique, elle s'en sort bien dans tout ça, non? Tu trouves pas?
Ben oui, l'Église catholique, lui, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils ont entendu que la poursuite allait être déposée, ils ont placé leurs actifs vers le Vatican, puis ils se sont mis sous la protection de la loi sur les faillites au Canada, là, pour ne pas payer les préjudices qui ont causé, puis c'est le gouvernement du Canada qui s'est excusé. Les Anglicans, c'est la même chose. En fait, il n'y a aucune église qui s'est excusée auprès des communautés.
Pas un mot.
Pas un mot. Puis aujourd'hui, pour moi, personnellement, je vis la question du pensionnat, la colère, oui, 215, mais en même temps aussi, j'ai fait une espèce de cérémonie où que j'ai acheté deux souliers, une rose puis un bleu.
Moi, j'ai vu ça sur Facebook.
Attaché avec une ballonne blanche pour libérer les enfants. La ballonne blanche représentait la pureté des enfants. Puis quand ils sont partis dans le ciel, c'était pour qu'ils rejoignent les ancêtres. C'était les libérer pour qu'ils retournent chez eux, auprès de leur maman, papa, mon oncle, ma tante, grand-père, qui sont déjà décédés aussi. Là. Mais c'est qu'on permette à ces esprits-là de se retrouver puis d'aller dans un endroit qu'on appelle le Grand Rassemblement. C'est là où les hommes, les Premières Nations, nos ancêtres se retrouvent. C'était ça le but, pourquoi moi je le fais de cette façon-là, pour libérer l'esprit. Maintenant, en faisant ça, en découvrant le charnière de 215, là, c'est beaucoup ça, l'Église catholique a été démasquée. Là. À la face du monde, l'Église catholique a été démasquée, puis ils ne peuvent pas prétendre que ça s'est bien passé. Là. Parce qu'il y en a eu des histoires de jeunes filles mises enceintes par les oblats, puis dont l'enfant a été tué au moment de la naissance, puis enterré en arrière. Il y en a eu.
L'Église?
Moi, j'en avais vu un quand j'étais au pensionnat à Moss. J'avais vu une fille, puis tout le monde l'agaçait parce que les gens disaient qu'elle était très grosse, mais non, elle était enceinte.
Elle était enceinte d'un viol.
Soudainement, on ne l'a pas vue pendant quelques temps, puis quand elle est revenue dans le pensionnat, elle n'avait plus de gros ventre.
Jimmy, quand vous parlez de résilience, là, où il y a moins une chose qui n'a pas été détruite, et là, on en voit la manifestation chez les Premières Nations, c'est l'âme autochtone.
L'âme, tant aussi longtemps que le tambour est connecté, nos cérémonies sont connectées avec notre âme, on ne va pas disparaître. La seule chose que le gouvernement du Canada a fait avec l'assistance des provinces, ils voulaient qu'on tasse les autochtones, on les a parqués dans les réserves, parce qu'il fallait exploiter les richesses naturelles. On les a tassés dans les réserves. À partir de là, la loi fédérale a tout simplement envoyé les prêtres détruire la spiritualité des autochtones, parce que c'était notre lien avec le Créateur, puis notre lien avec les animaux qui marchent, qui nagent, qui volent. C'était notre lien avec notre spiritualité aussi. Ils ont détruit ça.
Le lien entre tous les êtres vivants, puis la Terre.
C'est ça. C'est ça, c'était notre place dans le sac qui a été détruite. Puis aujourd'hui, ce que l'étranger, bon, dit souvent l'étranger en référence blanc, c'est qu'ils ont peur que l'éveil autochtone se cristallise à travers de l'est à l'ouest, coast to coast, comme on dit en anglais, là, pour que la force du sac se refasse. Puis ça, quand ça va arriver, l'étranger va avoir des sérieux problèmes.
Ce qu'on fait,
le gouvernement, dans le fond, là, c'est un holocauste autochtone à travers le pays.
Ben, le génocide, oui, on n'accepte pas ce terme-là. Hein?
Non, ils n'ont pas. Les gens, dans un pays soi-disant civilisé comme le Canada, qui est champion au monde de la défense des droits, là, ben, le droit de ces 215 personnes-là qui devaient vivre, plus les 150 000 qui ont passé à travers les pensionnats, plus les 4 000 qui sont disparus, ben, leurs droits n'ont pas été respectés. Puis le Canada, là, il y a des leçons à apprendre avant. Il faut qu'elle refasse ses classes.
Fait que si on se poursuit, il y a eu les pensionnats, il y a eu la première attaque, comme tu disais, de la part des religieux. On nous a tassés dans les réserves pour prendre le territoire. Il y a eu les pensionnats pour nous enlever notre âme, notre identité. On a continué avec les externats, puis aujourd'hui, c'est le retrait des enfants des communautés par des organismes de protection de la jeunesse qui continuent ce travail-là.
C'est ça. Ça continue à travers ça. Puis nous, les 120 enfants de la résidence, ils sont devenus des jeunes parents qui, la majorité d'entre eux, leurs enfants signalés puis en placement. Parce qu'ils n'ont pas eu les outils que nous, on aurait dû avoir, puis que mes parents auraient dû avoir, puis mes grands-parents puis auraient dû avoir, puis mon arrière-grand-parent aurait dû transmettre. Ça a été coupé au moment de l'adoption de la loi sur les Indiens. On a coupé ça pour ne plus jamais que l'Autochtone transmette son savoir, sa spiritualité, sa langue, sa culture. Puis le gouvernement, le monsieur qui a voulu nous faire disparaître, là, avec l'aide du Parlement du Canada puis les provinces, ben lui, tant qu'à moins, tu sais, toutes ces statues à travers le pays, on devrait toutes les ramasser puis les jeter dans le fond de l'océan, là. Puis voir une face de... Puis dans les billets de banque, on devrait enlever la face de Laurier aussi, là, tant qu'à être. Au moins, quand est-ce que ces gens-là vont nous respecter? C'est ce que je me dis souvent. Puis quand est-ce que les citoyens du pays vont nous respecter? Puis tranquillement, ça change. Okay? Les médias sociaux, c'est très fort. De plus en plus, beaucoup de gens, beaucoup de Québécois de souche commencent à ouvrir les yeux puis commencent à percevoir que, hey, c'est vraiment passé. Puis ça date pas d'hier, là, ça date pas de 100-200 ans. Là, ça date des années 90 encore, quand il y a eu le dernier pensionnat a été fermé. Puis pour nous, le conseil, quand que Trudeau a décidé de faire des cérémonies pour recevoir le rapport de réconciliation, là, moi, j'ai écrit à Trudeau, j'ai demandé de ne pas fermer, j'ai demandé de regarder la situation des enfants. Il n'a jamais répondu, Trudeau. Ils ont fait leur célébration alors qu'à 3 heures au nord d'Ottawa, il y avait 120 enfants qui allaient être condamnés dans le silence.
C'est incroyable, Jimmy, parce que des gens de ma génération, là, je fais partie des vieux, là, les seuls autochtones dont on a entendu parler, c'était Catherine Tekakwitha, parce qu'elle était sainte dans l'Église catholique. Les autres, là, je ne connais pas.
Ben, moi, je vous dis que le rôle de l'Église catholique, ça a toujours été d'utiliser l'image autochtone pour mettre à genoux les autochtones. Il fallait qu'ils inventent une sainte quelque part. Puis, même si Catherine Tekakwitha avait vraiment existé, même si elle existait, là, ben, l'Église catholique s'en est servie pour... servir de son histoire pour la mettre à genoux le peuple autochtone, puis ce qui est aberrant, puis moi, je dis, l'Église, là, les gens de l'Église demandent le pardon, ça parle de pardon.
De réconciliation.
C'est ça. Il y a même des Autochtones qui sont affranchis dans l'Église catholique, anglicane, tout ça, puis ils disent, we have to forgive, we have to move on. Oui, mais comment tu veux faire ça quand les représentants de l'Église se sont jamais excusés?
Puis quel colonialisme continue aujourd'hui?
Et ça continue aujourd'hui. Là. Penses-tu que la personne est bien quand il est assis à l'église et qu'il voit le prêtre parler de la Sainte Bible, de tout ce qu'il fait, puis de miser l'importance sur le pardon, alors qu'on sait très bien que derrière leur soutane, il y a eu des petits gars là, qui ont été mis à genoux et qu'on a abusé?
Oui. Hey Jimmy, Kitimigwetch pour ta chronique, pour ton partage aujourd'hui. C'est toujours plein d'enseignements, qu'est-ce que tu nous dis.
Toujours un plaisir de parler toujours, à Jimmy. Hein?
Oui.
Ce que j'ai appris, pareil, dans la vie, c'est... Moi, je ne me considère pas comme un survivant. Je me considère comme quelqu'un qui a appris à vivre sans pensionnat, puis qui a avancé.
Bravo.
Bravo. Miigwech.
Okay.
Salut.
Bonne journée.
Pan wa ten, cha chi wit win, e men wa shi. U ten de pen, cha nan ta tak, ni chen a pen. Wa wit mo, Mwitikwan, Wishtwe me queen. Neketu ten, Nichikwan, Menwe me queen. Nemunwa ten, Ute ma mo, Itaya. Nemunwa ten. Qui est ma mou et me noie ma Where are we mou N'est-ce quoi Piste en mi queen Ne que tout en N'est-ce quoi Et me noie mi queen Dan si ti an Se tite wapnita Se zit sentimen E schwenen tan de schwen Etreitan etemnyan gabicheyan Namane mo to twasin no hot eten to call Ewap my queen wish twentman chinente squen Dan si ti an, si ti te wapnita, si ti sentman, ishwenen tan de shkwen. Wapnita Tzit sentman Ishwenen tan de shkwen Tam tzitian Tzitite Wapnita Tzit sentman Ishwenen tan de shkwen
C'était Nitash Kouem de l'artiste André Simon.
Alexis, tu parles souvent, puis avec ça des échos chez moi, de colonialisme. Mm-hmm. Et quand on parle de colonialisme des Québécois, les Québécois ont souvent le réflexe de dire « Ah ben, comme disait le fameux livre d'Albert Memmi à l'époque, on est colonisé nous-mêmes, etc. » Mais on a été d'abord et avant tout des colonisateurs par rapport aux Premières Nations. Il ne faut quand même pas l'oublier, là.
Il ne faut pas l'oublier. Puis, pas juste avant que les Anglais arrivent. Après que les Anglais sont arrivés, la colonisation, les Canadiens-Français ont aussi participé à la colonisation. Tout en étant soumis à des patrons anglophones, à l'État fédéral canadien qui faisait en sorte qu'on voulait assimiler beaucoup de francophones à la langue anglaise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Canadiens français qui ont voulu justement tasser les Premières Nations. Je sais pas si tu as déjà regardé le film de Richard Desjardins, Le Peuple Invisible.
Ben oui, bien sûr.
Bon, ben je sais pas si tu te rappelles de la scène où on voyait justement la ville de Nedlec, la municipalité de Nedlec, comment elle avait été formée. Sur des terres de Témiscamingue First Nation, les Algonquins qui sont à la pointe nord du lac Témiscamingue. Et on voyait très, très bien là-dedans que c'était un curé canadien-français, avec des Canadiens-français qui voulaient s'approprier les terres, qui disaient dans la lettre que ça n'avait pas de bon sens que de si belles terres arables, si productives, soient laissées là à rien faire à des Indiens. Puis cette colonisation-là, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté. On parle souvent de la colonisation comme quelque chose du passé. Mais elle se poursuit, la colonisation.
Mais c'est parce qu'on de cette colonisation, on le disait plus tôt dans l'émission, ça se faisait toujours au nom de la religion. Hein? C'était un beau prétexte.
Ou de la mission civilisatrice.
Oui. Ce qui, à l'époque, se ressemblait assez. Mais au nom de Dieu, tu sais, crois ou meurs, là. Ouais. On a eu ça en masse. Juste une petite anecdote là-dessus. Au lac Memphrémagog, c'est pour les Premières Nations, mais quand les bénédictins sont arrivés, la fameuse abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, ils ont été voir un fermier qui était là, puis il a dit « Dieu vous dit de nous laisser votre terre.
Mm. »
Et l'abbaye est là.
Ouais.
Tu sais, ça n'a pas changé tellement. Mais nous, on l'a fait. Parce que, comme Québécois, moi, quand j'étais petit garçon, ce qu'on voyait des missionnaires qui venaient avec leur grande robe blanche qui arrivaient d'Afrique, pour nous, le colonialisme, c'était une bonne chose, c'était l'évangélisation. Ça se passait ou en Amérique du Sud ou en Afrique.
Puis on apportait la civilisation à ces pauvres peuplades.
Quel beau cadeau on leur faisait, là.
Mm-hmm.
Hey, c'est pas ça pantoute, là.
Puis c'est encore beaucoup dans l'esprit des gens comme... j'ai eu beaucoup de débats, moi, avec des Québécois qui me disaient « Ouais, ben si ça serait pas de nous autres, là, vous auriez pas de maison, vous auriez pas de skidoo, pas d'Internet.
Non.
Ouais, ben peut-être que la majorité, une grande partie des peuples autochtones auraient préféré juste être laissés tranquilles puis laissés dans le bois. Mais ça fonctionnait pas parce qu'il faut aller chercher des ressources. Tu sais, Jimmy, qui est venu qui était notre invité précédemment, je l'ai vu raconter le fait que les Anishinaabés avaient pas le droit d'aller à moins de 10 000 de la route pour pas que les touristes de la 117 aujourd'hui dans le parc La Vérendrye, pour pas que les touristes les voient.
Aïe, aïe.
Jusqu'à très récemment, tu sais, dans les années 50, 60, 70, il fallait pas voir d'Anishinaabe pour pas déranger les touristes.
Mais pourquoi ça redérangeait les touristes?
Parce que on a créé une espèce d'imaginaire qu'on avait tassé les Premières Nations, puis c'était quelque chose du passé. Donc, puis c'est toute la volonté de vouloir nous effacer, de vouloir parler des peuples autochtones comme quelque chose du passé.
C'est du folklore.
C'est du folklore. Ouais. C'est justement, dans le projet colonial, c'est très, très, très utile. Parce qu'il faut se rappeler, c'est quoi les racines du mal, à quelque part, tu sais. On est venu ici au départ pour des raisons mercantiles, la traite des fourrures et ainsi de suite. Les peuples autochtones, dans cet objectif-là mercantile, étaient essentiels en tant que main-d'œuvre. Pour aller chercher les peaux de castor, les ramener, les vendre, les transporter. Par la suite, les empires coloniaux ont commencé à s'installer, puis à avoir des guerres entre eux. Donc, les alliances diplomatiques des Premières Nations, les alliances entre elles, étaient très utiles aussi pour les objectifs coloniaux. De pouvoir contrôler le territoire, avoir accès aux ressources et ainsi de suite, puis d'avoir des auxiliaires militaires aussi de leur côté. Où on a commencé à vouloir nous tasser, nous mettre dans des réserves, c'est quand on devenait nuisance à ces objectifs coloniaux-là. Napoléon a fait le blocus autour de l'Europe, les Anglais allaient chercher leur bois chez les Scandinaves. Et ils ne pouvaient plus aller les chercher, se sont virés de bord. On commençait à venir les chercher ici dans Saint-Maurice, puis dans la vallée de l'Outaouais, où on a fondé Ottawa, puis d'autres villes comme ça. Puis à force, à mesure qu'on pénétrait le territoire pour aller chercher les arbres, puis après ça le minerai, ben qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait des Indiens qui vivaient là, puis qui dérangeaient cette exploitation-là des ressources naturelles pour les besoins coloniaux. Donc on est passé d'un utile à nuisance au projet colonial. Et il a fallu...
Ouais, parce que c'était plus des pots de castor, là.
C'était plus des pots de castor. Donc, il a fallu régler le problème indien. On devenait un problème indien. Et on est venu avec ces politiques-là de vouloir faire les traités à partir de la rivière des Outaouais dans les autres provinces, les traités numérotés. On est venu à nous mettre dans des réserves en nous promettant des subsides pour qu'on puisse survivre. Puis même là, dans les réserves, on était encore trop dérangeant parce qu'on devenait coûteux. Donc, il fallait transformer l'Indien pour en faire un bon blanc qui va produire dans les champs, qui va être une bonne ménagère pour les jeunes filles, et ainsi de suite. Donc, on allait tuer l'Indien dans l'enfant. C'était ça que Johnny McDonald a dit. Donc, ce projet colonial-là se poursuit aujourd'hui. On tasse encore, on dit aux Autochtones qui protestent pour leurs ressources naturelles, pour leurs ressources, pour le mousse, quand ils font des barrages, parce que c'est notre dernier recours, qu'on est violent, on vient parler d'un AK-47 à Kanawagé. Le premier ministre Legault avait fait ça dans la crise ferroviaire l'année passée. On vient ramener des préjugés comme ça parce qu'ils sont utiles à ce projet colonial-là qui est toujours actuel.
Oui, puis on se fie sur notre instinct par rapport aux Premières Nations en disant « on peut encore vous aider parce qu'on va encore chercher de l'argent ». Moi, j'ai des doutes sur le fait que le gouvernement est constamment à mettre de l'argent pour régler un problème qui est culturel.
Oui, mais c'est que l'argent quand même, il faut des réparations, il faudrait que le gouvernement arrête de se battre en cour contre les enfants et ainsi de suite. Puis l'idée, c'est de partager le pouvoir, tu sais, on l'a partagé un petit peu avec les Cris, le pouvoir avec la convention de la baie James, ça rapporte des milliards. L'hydroélectricité, on a partagé un petit peu d'économie, de pouvoir économique puis politique avec les autres, puis il y a beaucoup moins de tension avec les Cris qu'avec les autres.
Il y a bien des gens dans l'ensemble de l'humanité qui sont prêts à partager beaucoup de choses, mais pas le pouvoir.
Non. C'est difficile, ça. c'était Summer Love de Cilla and Rise.
Une semaine, Alexis, qui va laisser des traces.
Oui, une semaine qui va laisser des traces. J'espère qu'on va pouvoir se regarder dans le miroir pour les États coloniaux, puis pour ceux qui profitent aussi de tous les bénéfices que l'État colonial leur a apportés, pour voir que ça serait bien justement qu'on puisse tout avoir un peu de dignité, que les Autochtones aussi méritent de vivre dans dignité.
Et laissons tomber le folklore une fois pour toutes.
Mm-hmm.
Ça serait bien. L'émission se termine ainsi. Alexis Bourbon-Olorat avec nous, Robert Blondin ici, Jean-Sébastien La Liberté à la régie, Claire Guérin à la recherche et Louis Garon à la coordination. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.